La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est né en Suisse à la Belle Époque et mort durant les Trente Glorieuses en 1965 à l'âge de 77 ans. Quand il voit le jour, on se déplace encore à cheval dans les villes, tandis qu'il disparaît au temps de l'autoroute et des parkings souterrains. Cette accélération technique foudroyante du XXe siècle, il l'a appelée de ses voeux et y a participé dans le domaine de l'architecture, comme nous le voyons ici, jusqu'à jeudi. Hier, avec François Chalin, nous avons posé les jalons de la vie et de la carrière de Charles-Édouard Jeanneret, qui a choisi comme nom de plume Le Corbusier au moment de lancer sa revue L'Esprit Nouveau. Demain, avec Guillemette Morel-Journel, nous évoquerons plus particulièrement son rapport avec l'étranger, le Moyen-Orient, la Méditerranée ou encore l'Inde de Chandigarh. Enfin jeudi, c'est d'abord d'un Corbusier dessinateur dont nous parlera Daniel Poli. Ensuite, Catherine de Smet évoquera son rapport avec les musées. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour revenir sur l'œuvre architecturale de Le Corbusier, nous sommes en compagnie de Tim Benton, professeur d'histoire de l'art à l'Open University en Angleterre, auteur de plusieurs livres sur le Fada, parmi lesquels la monographie Le Corbusier le Grand, signée avec Jean-Louis Cohen, monographie disponible aux éditions Faïdon. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres.
Moi, je fais mon architecture, elle est cohérente comme un organisme vivant, elle est biologique, si vous voulez un mot bien embêtant, n'est-ce pas? Elle est biologique, il y a un support osseux, il y a des forces musculaires, il y a des réseaux sanguins, lymphatiques, nerveux dedans, et il y a tout ce qu'une biologie comporte d'impeccable, c'est dans mes maisons. Et je les mets, c'est pour ça que je suis un pauvre forçat du travail. Je suis pas malheureux de tout ça, parce que je travaille aujourd'hui plus fort que jamais, n'est-ce pas? Je fais des villes ou des maisons ou des baraques, peu importe, et ça commence à la plus petite chose, et c'est l'addition de toutes les petites choses, les unes ou à côté des autres, modestement, avec persévérance, quotidiennement, qui permet de faire quelque chose au bout de la course.
Le Corbusier au micro de Georges Charansol en 1962. Bonjour Tim Benton.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Quel est l'enjeu selon vous pour Le Corbusier de comparer, comme il le faisait dans cette archive, son architecture avec un organisme vivant?
Alors ça, on a entendu Le Corbusier à la fin de sa vie, mais cet engouement pour la nature a commencé très tôt, à la Chaux-de-Fonds, où il a été formé à l'école d'art par Charles Platénier, qui faisait sortir tous ses élèves dans les montagnes à dessiner la nature, et qui voulait créer un style, la Chaux-de-Fonnier, art nouveau, un peu comme à Nancy.
Donc avec des motifs floraux, une inspiration
le style
venue de
sapin,
la nature.
On l'appelle le style sapin. Mais le moment où le mélange de programme de l'architecture moderne et la nature, ça vient beaucoup plus tard, parce que c'est une période très importante entre 1926 et 1929, quand il passe chaque été au bassin d'Arcachon, où c'était au même moment qu'il faisait le grand programme de l'architecture machiniste, de l'ère machiniste, rationnelle, avec le béton et tout ça. Mais il découvre la nature et sa peinture change complètement. Et il commence à avoir une vue qu'il appelle lui-même une vue cosmique de la nature. Et son symbole, c'est la forme courbe des 24 jours du soleil, et il parle de la lune, du soleil et tout ça, comme la nature, comme une force génératrice.
Oui, parce que quand même, quand on pense Le Corbusier, à part en effet des œuvres de la fin et puis quelques-unes de ses peintures, on voit plutôt la froideur, et c'est même ce qu'on lui reproche d'habitude, la froideur de la technique, pas tellement la beauté de la nature.
Oui, alors on répond à cette question à deux niveaux, par exemple. Oui, c'est vrai que le purisme, la peinture qu'il a fait avec Aux Enfants, entre 1918 et 24, 25 plus ou moins, a une certaine froideur. C'est vraiment géométrique. Souvent, ils ont fait un programme géométrique tracé sur le canevas avant de commencer. Et c'est vraiment très statique.
Mais même les maisons, la ville de la Savoie, dans sa beauté, est assez froide.
Ça, c'est le deuxième niveau. Parce que là, il y a un peu une question de jugement. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent la ville de la Savoie et qui disent que c'est froid et géométrique.
C'est géométrique.
Excuse-moi, je ne le vois pas comme ça. Je vois une maison qui est pleine de lumière, qui a le paysage partout. Un peu plus difficile maintenant parce qu'il y a une école devant, mais si on avait
tous les paysages,
il n'y a plus le parc. Oui, énorme. Les quatre horizons pleins de verdure, etc. Une terrasse qui est plantée, qui prend le centre de la maison. C'est pas si froid que ça. Hein. Et même la Villa Cook, autre grande œuvre de Le Corbusier de 1926 à 28, c'est une maison pleine de courbes. C'est très, très sensuel, cette architecture. Et plein de couleurs aussi. Alors, il y a un problème de froideur qui a surtout attaqué les Anglais, les pauvres Anglais, qui ont compris Le Corbusier par moyen des livres et des photos en noir et blanc.
Il n'y a aucune construction de Le Corbusier en Angleterre.
Il y en a eu, parce qu'il a fait un stand pour le Venesta, un producteur de contreplaqué, en 1928 avec Charlotte Ferrion, qui a été construit, mais évidemment démoli tout de suite après.
Ah oui.
Il a fait des projets pour l'Angleterre, mais rien n'a tenu. Non.
Alors pour revenir sur ce côté organique qu'il revendique, on voit bien en quoi un bâtiment peut avoir, comme un être humain, une colonne vertébrale, peut avoir des nerfs avec les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité. Mais qu'est-ce que ce serait que les muscles d'une maison, puisqu'il parlait des muscles?
Alors, ce qu'il raconte là en 1961, c'est un discours qu'il a fait en 1929 à Buenos Aires, où il parle d'un peu de biologie préalable. Et il parle de la squelette, il parle de la circulation, les nerfs et tout ça, et il parle des muscles. Ça, je m'excuse, c'est Vitruve. Ah. C'est Fermitas Utilitas et Venustas.
Ça remonte très loin.
Très loin. Donc il fait un argument, comme toujours avec Le Corbusier, il essaie de couper la base de l'architecture académique et le remplacer par cette fondation nouvelle de son architecture. Et alors, pour répondre à votre question, les muscles, alors les muscles, c'est Venustas. Alors, dans toute l'histoire européenne, Venustas, c'est les courbes de la femme. Chez Le Corbusier, c'est les courbes du muscle de l'athlète. Donc, il transforme cette idée de beauté qui est toujours dans les courbes pour Le Corbusier en forme masculine.
Alors, on va parler un petit peu de cet homme et de sa manière de travailler avec vous, Tim Benton, dans cette émission. Peut-être en disant tout d'abord que c'est un homme qui regarde beaucoup et qui prend beaucoup de notes et qui même va garder des cartes postales, par exemple, pour se souvenir quand il se balade dans des villes qu'il aime. Quelle est sa méthode de travail?
C'était très difficile parce qu'il y a deux choses. Le Corbusier était, comme beaucoup de personnes très importantes, il était un étudiant toute sa vie, comme il le dit plusieurs fois. Donc, ses croquis, ses notes, sont plutôt exemple de sa curiosité. Ce n'est pas vraiment une partie directe de son mode de travail. Il faut distinguer ces deux choses. Et son mode de travail avec Pierre Jeanneret, jusqu'à 1940, et après avec son atelier, était une espèce de dialogue toujours. Et il travaillait beaucoup sur le plan d'étage, non?
De dialogue avec ses collaborateurs?
Beaucoup. Donc c'était toujours postuler une idée, voir le résultat. Pierre, il postulait une idée, Pierre Jeanneret le dessinait et puis le critiquait.
Oui. Ou Charlotte Perriand qui travaillait aussi avec
lui. Charlotte Perriand travaillait avec lui, mais presque pas du tout sur les bâtiments, c'était sur le design, le mobilier. Mais par exemple, ses assistants, après-guerre, ils se plaignaient du fait que Le Corbusier parlait d'un projet, faisait des croquis, etc. Et donc, eux, ils ont travaillé 2 semaines sur un projet magnifique dessin qu'ils ont présenté, et puis il a changé tout. Mm-hmm. Donc, parce qu'il ne voulait pas être corbusien.
Donc, finalement, il n'est pas aussi dogmatique qu'on l'a dit. Il travaille avec les autres aussi.
Je ne le mettrais pas exactement comme ça, parce qu'il était très dogmatique. C'était la force de sa rhétorique. C'était d'être très, très... sûr dans ses propositions, dans les slogans. Mais il acceptait la contradiction. Donc, c'est une chose qui a pris beaucoup de temps à comprendre, parce que normalement, la contradiction, c'est une mauvaise chose. Nous pensons qu'il faut être rationnel. Mais Le Corbusier a pris plus ou moins la position de l'artiste. L'artiste regarde le monde et l'artiste voit que le monde est impossible. C'est impossible de trouver des solutions rationnelles dans le monde. Donc, il faut faire l'œuvre artistique qui taille tout et qui crée quelque chose. Hein. Et ça, c'était sa position.
Alors, on a filé la métaphore du corps humain. On n'a pas parlé de l'œil, simplement en disant que c'était quand même quelqu'un qui regardait beaucoup. C'était quelqu'un qui forçait peut-être aussi les autres à regarder et à regarder différemment des objets du quotidien et notamment des objets techniques. Il y avait ce côté-là chez Le Corbusier, Tim Benton.
Oui, et ça commence dès l'origine. C'était un curieux et il s'étonnait toujours lui-même. Donc, par exemple, si on donne peut-être Guillemette parlera de ça demain, c'est mieux que moi. Mais la première fois qu'il est allé en Italie, c'était avec des instructions de chercher, dessiner minutieusement des exemples de décoration. Donc, il Orcagna, de Sienne, ces choses comme ça. Donc, il dessinait parfaitement. Mais ce qui l'a plus frappé, c'était pas du tout ça. C'était le monastère de Galuzzo a Ema, le couvent avec les cellules des moines qui regardaient le paysage. Donc, il avait un œil qui était indépendant de sa pensée rationnel. Mm-hmm. Et c'est ça un peu l'importance de tous ces croquis, c'est-à-dire qu'il était toujours en regarder et saisir les choses sans savoir pourquoi exactement.
Et c'est en cela qu'il est un artiste. Lui, il s'est toujours revendiqué artiste.
Exactement. C'est pas comme les cahiers de beaucoup d'architectes qui dessinent des choses qui sont utiles. Qui dessine des exemples d'architecture vernaculaire, qui dessine des... Il a fait ça un peu dans le premier voyage en Orient, mais après ça, on ne voit pas ça.
Mais alors, il peut regarder dessiner des monastères, mais il peut regarder aussi des aéroplanes, des transatlantiques, des automobiles.
Oui, et ça c'est ce qu'en anglais on dit « lateral thinking », c'est la pensée latérale, non?
Oui.
Alors, ça c'était très intéressant, parce qu'il y a un problème pour l'architecture moderne, pour le modernisme, comment expliquer aux gens que c'était nécessaire de changer? Okay. Alors, c'est l'argument du Zeitgeist, c'est-à-dire le monde a changé avec l'avion, le train, le paquebot, toutes ces choses, le béton armé, donc l'architecture doit changer. Donc, ce n'est pas forcément un argument très convaincant.
C'est un argument qui peut se retourner assez facilement.
Mais c'est lui qui a trouvé la façon visuelle de montrer ça. Donc, il a cherché les objets, les grands silos, les avions, les paquebots. Il les a montrés. Il les a montrés en façon de voir que ça pouvait être important pour les architectes.
Et que ça pouvait être beau.
Et que ça pouvait être pas seulement beau, mais universel, parce que déterminé par la géométrie.
Comment construit-on des maisons pour les gens heureux? Il faut d'abord fixer la notion d'homme en disant que l'homme, c'est la femme, c'est le mari, c'est le grand-père, la grand-mère et surtout les enfants. Et que lorsqu'il s'agit de maison, il ne s'agit pas de maison, il s'agit de foyer, car le foyer est le réceptacle de la famille et c'est le vase qui contient la famille et c'est le foyer qui est l'objet, qui devrait être l'objet des soins des constructeurs.
Mais matériellement, comment faites-vous cette maison? Comment réalisez-vous les conditions d'hygiène morale, d'hygiène intellectuelle.
Oui, eh bien, c'est tout un immense problème. Je m'y consacre depuis plus de 40 ans, passionnément. Si j'ai un petit titre à la reconnaissance publique, c'est non pas d'avoir fait des palais, car j'en ai tout de même fait quelques-uns, mais d'avoir, que j'ai abordé le problème de l'architecture, ou des arts, ou de l'expression de la sensibilité humaine, j'ai eu le sentiment que le logis était le temple de la famille, et qu'il y avait quelque chose de grand à tenter de ce côté-là, qu'il y avait là-dedans une grande part du bonheur humain. Et je ne sais pas pourquoi je me crois obligé de m'occuper du bonheur humain, mais j'aime autant, dans mes préoccupations, arriver à approcher la solution d'un tel problème que de m'occuper à faire de l'épicerie ou de la banque.
Entretien avec Georges Charbonnier en 1953. C'est donc bien la famille, Tim Benton, et les modes de vie de la famille, plus généralement les modes de vie qui lui sont contemporains, qui sont au cœur de sa pensée architecturale.
Oui, mais là, il argumente contre son plus fameux slogan qui a été utilisé contre lui. La maison est une machine à habiter.
Alors, il faut expliquer ce qu'il voulait dire avec ce slogan.
Alors, si on lit « La maison est une machine à habiter », il n'y a pas vraiment façon de dire que ce n'est pas vrai. La machine, c'est une construction avec quelques éléments mobiles et la fonction, c'est d'être habité. C'est vrai, non?
Mais la machine produit quelque chose en général.
Oui,
elle produit un objet.
Le problème, c'est que c'est pris, comme il avait dit, que le home, le foyer, en français, le foyer est une machine. C'est ce qu'il n'a pas dit, ça. Il a dit la maison est une machine à habiter parce qu'il disait qu'il y a des moyens mécaniques de résoudre le problème de la construction de la maison. Mais le foyer, le sens de bien-être et tout ça, ça c'est autre chose.
Donc il n'y a pas l'idée que c'est une machine parce que ça fait en sorte que les gens qui habitent dans cet endroit agissent de telle ou telle manière. C'est pas ça la machine à habiter?
Ça c'est l'argument qu'il a utilisé contre lui. Mais il y a un texte très important quand il réfléchit sur un grand travail qu'il a fait sur les maisons à Pessac. Donc il a dessiné...
Dans la banlieue bordelaise.
110 maisons, donc 50 ont été construites. Tout à la base d'un plan plus ou moins standardisé, mais il y avait 5 différentes versions. Et il a écrit en 1926 un article sur ça. Et quel est le problème de Pessac? La faillite du standard. Non? Et il a dit, le problème, c'est que le monsieur X, qui va habiter cette maison, ne sera pas content s'il ne pense pas que l'architecte a dessiné chaque maison pour lui-même.
Donc on n'aime pas l'idée de la standardisation, c'est ça?
Et donc il met en cause l'idée profondément à la base de standardisation déjà en 1926. Donc c'est un grand problème. Hein? C'est un grand problème. Un autre texte qui est très très important, 1928, le livre qu'il écrit « Une maison, un palais », il passe 4-5 pages à décrire des baraques temporaires faites par des pêcheurs dans les forêts de le bassin d'Arcachon. Il a dit que ces maisons sont faites par l'homme avec ses gestes, avec la matière qu'il trouve sur place. Et c'est eux, ces pêcheurs, qui sont les architectes parfaits. Et ce qu'ils ont construit, c'est des palais.
Mmh. Alors, l'homme moderne, c'est Le Corbusier. Il y a une recherche de modernité chez lui, et y compris jusque dans ses slogans, dont celui qu'on vient d'évoquer, de la machine à habiter. On peut peut-être faire un petit détour pour dire que si il y a parfois aussi une incompréhension autour de Le Corbusier, c'est parce que lui-même s'est mis en scène comme un homme public, comme un publiciste, et qu'à un moment donné, jusque dans son physique, il était devenu un représentant de la modernité, et qu'il s'était comme ça affiché un petit peu partout avec des slogans chocs. Tim Benton.
Oui, Alors, il est beaucoup raconté que les slogans de Le Corbusier, il était descendu comme la voix de Dieu, et que des générations d'architectes après, dans tous les pays, ont été des esclaves à ses pensées.
On peut être mal compris parfois.
Je m'excuse, mais on ne obéit pas le texte de Bible ou du Coran. Maintenant, il faut réfléchir, il faut prendre ce qui est bien et mettre un peu à côté discrètement ce qui ne va pas pour le temps moderne, non? J'espère que c'est pas du blasphème, mais c'est un point de vue, je pense, assez courant. Et ce qui s'est passé, c'est que une génération d'architectes qui n'avaient pas leurs propres idées ont utilisé les idées de Corbusier sans réfléchir et sans le beaucoup des choses que Le Corbusier a écrit sont de non-sens. Beaucoup de projets que Le Corbusier a fait, il faut critiquer. Une grande partie de ces projets d'urbanisme, c'est de la rhétorique qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Mais il faut les critiquer, il faut être adulte, il faut répondre.
Des architectes et puis des décideurs publics qui ont peut-être mal interprété ou qui ont mis en place des versions très dégradées des idées de Le Corbusier.
Oui, les idées de Le Corbusier, mais combien de personnes ont vraiment lu les écrits de Le Corbusier? Le public est confondu par le critique de Le Corbusier qui a été fait et qui souvent a une base forte. On peut critiquer Le Corbusier, il y a des choses à critiquer. Mais pour vraiment faire une critique soi-même, il faut lire, il faut voir, il faut regarder. Toutes les personnes, par exemple, qui critiquent son urbanisme n'ont pas visité l'unité d'habitation à Marseille. Il faut le visiter avant de dire est-ce que c'est une caserne ou est-ce que c'est un lieu très agréable à vivre.
Alors, je voulais revenir sur le physique de Le Corbusier et sur le fait qu'à un moment donné, beaucoup de gens se sont mis à mettre des lunettes noires comme lui, parce qu'il représentait quand même quelque chose de très fort.
Oui, mais dans toute l'histoire, il y a des suivants. Hein. C'est comme des suivants de tout genre, de la mode, de la musique, du pop, de la mode. Et voilà, c'est pas important.
Paris, le 8 mars 1934, monsieur le préfet. C'est par esprit de devoir et de solidarité que je me sens obligé de vous faire part aujourd'hui de l'émouvant fait divers suivant. J'habite rue Jacob, et j'ai appris ce matin qu'au numéro 14, où se trouve un bougna, la femme du marchand est morte cette nuit de tuberculose. C'est Madame L. En 1932, sont morts de tuberculose dans la même boutique, monsieur B et sa femme. En 1930, est mort de tuberculose dans la même boutique, monsieur R. En 1927, les deux tenanciers, hommes et femmes, dont on a pu me donner les noms, sont morts également de tuberculose. Mon enquête n'a pas pu remonter plus haut. Les quatre couples susnommés sont tous de solides Auvergnats venus directement de leur campagne. Il a suffi à chacun de 2 années pour mourir à 30 ans. Personne, évidemment, ne songe à vous avertir de cela. Le propriétaire, surtout, qui loue impassiblement sa boutique après chaque décès. Demain, un nouveau couple va arriver d'Auvergne et mourra en 1936, bien entendu. Je me suis permis, monsieur le préfet, de penser que ce petit fait divers, assez émouvant en soi, rentre dans les compétences de vos services. Veuillez agréer, monsieur le préfet, l'expression de mes sentiments très distingués. Le Corbusier.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et cette lecture par Christophe Lemay d'une lettre de Le Corbusier qui date donc de 1934. Tim Benton, à quel point les préoccupations de Le Corbusier étaient-elles tournées vers la résolution des problèmes sociaux engendrés par le logement, comme on vient de l'entendre ici?
Alors, c'était pas Le Corbusier qui a créé la crise du logement à Paris, et le problème de tuberculose était à impliquer toutes les forces de la mairie pour les services de l'hygiène, etc. Et il faut savoir qu'une grande partie de ce qui a proposé Le Corbusier comme le plan voisin de Paris, donc un projet de complètement détruire une grande partie de la rive droite, a été déjà à signaler comme îlot insalubre pour la destruction, parce que à cause de la taux de mortalité, en fait.
Donc il ne voulait détruire que les endroits insalubres, disait-il, de Paris. Parce qu'il adore Paris, c'est une ville qu'il trouve magnifique.
Il adore Paris. Et le plan voisin, qui est une idée terrible, il faut
le monde est d'accord là-dessus, je pense, aujourd'hui. Même les plus grands architectes trouvent que c'est une mauvaise idée.
Absolument. Comme je dis, c'était à la base d'un discours qui était très répandu dans les périodiques à l'époque sur le problème du taudis et de la seule façon de le faire, c'est une destruction radicale, comme l'a fait Haussmann déjà dans les années 1850 à 1870. Et voilà. Le problème avec le plan voisin, c'est que c'est une question intéressante sur la responsabilité du public pour leurs stars. Et on parle beaucoup de le problème que les grands stars de musique, du rock, etc., sont détruits par leur public. Et c'est un peu la même chose avec Le Corbusier. C'est-à-dire que, arrivé à Paris, il a eu beaucoup de mal à se faire connaître. Il a eu une petite exposition de peinture. Finalement, en 1922, il a montré un plan pour une cité de 3 millions de personnes. Et soudain, il y avait la presse, il y avait le pâté qui en fait un entretien. Il est devenu fameux. Il est devenu fameux. Et donc, en 1925, c'était le plan voisin qui est venu. Il a suivi la vague qu'il avait créée lui-même dans le populaire, quoi.
Mais est-ce que vous diriez que la préoccupation sociale est très importante pour lui, ou est-ce que finalement ce qui l'intéresse, c'est d'implémenter ses idées?
Oui, l'importance sociale était à la fin de tout ce qu'il avait écrit, et je pense que c'était honnête, c'était vrai de sa part. Mais là aussi, il y avait tout le contexte, toute l'architecture moderniste en Allemagne et aux Pays-Bas et en Russie, c'était à la base de ça. Donc c'est vrai que Le Corbusier, comme beaucoup d'architectes, ont pu seulement construire des villas pour des personnes assez riches dans les années 20, mais c'est parce que la commune ne l'aidait pas. C'était pas comme en Allemagne, à Francfort ou à Rotterdam, où il y avait des maires et des personnes qui voulaient poursuivre une réforme radicale de l'urbanisme.
En tout cas, ça n'est pas seulement un esthète, c'est un esthète doublé d'un théoricien.
Ah oui, et tout ce qu'il a écrit est à la base de ça. Il faut critiquer quelquefois, il prétend un peu trop loin que tout ce qu'il fait est pour l'homme et la femme normale, c'est un peu dire. Mais c'était à la base de tout ce qu'il faisait, c'était de faire une révolution dans la société qui sera bon pour toutes les personnes.
Étant révolutionnaire, on me déclare d'être révolutionnaire parce que je prétends qu'on devrait constituer les assises d'une science du logis. Ah, ça paraît tout à fait barbare, on dit vous êtes un esprit sec, vous êtes un type étroit, vous allez mettre les hommes en boîte, en caisse, etc., en cage. Oui. Un tas d'histoires comme celle-là. Mais le logis, c'est toutes les civilisations n'ont tourné qu'autour du logis, et du logis des hommes, on a fait le logis des dieux. Le temple n'a jamais été que le prolongement du logis des hommes, n'est-ce pas?
Oui.
Or, actuellement, nous sortons d'une époque dite de classicisme, c'est-à-dire de totale décadence depuis que le classicisme a existé, a été classé il y a un siècle et demi environ, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes maintenant dans une panade complète du fait des techniques modernes.
Du machinisme aussi, je crois beaucoup.
Les techniques modernes, n'est-ce pas, qui provoque des transformations hérissantes. N'est-ce pas? Autrefois, on bâtissait avec du pisé, avec du bois et du foin qu'on mettait à l'intérieur des pans de bois, avec du plâtre, avec la boue qu'on ramassait dans les rues, ou de la terre qu'on mettait pour ourder les pierres. Tout ça, des matériaux mous qui dissociaient les uns des autres, qui avaient pour objet de faire de l'acoustique sans le savoir, n'est-ce pas?
Oui.
L'insonorisation sans le savoir.
Oui. Mais comment est-ce que vous la maintenez, cette insonorisation?
Nous avons au contraire maintenant des moyens de construction, l'acier ou le béton armé, qui sont des transmetteurs terribles. Nous mettons à l'intérieur de ça des vrais téléphones, ce sont les tuyauteries de chauffage, d'eau chaude, d'eau froide, etc. Nous sommes dans un problème terrible de transmission de bruit. Eh bien, il faut examiner le problème froidement et le résoudre scientifiquement, c'est pas une affaire.
l'humanité est une science, nous explique Le Corbusier, Tim Benton. C'est une science de quoi? C'est une science comment?
Une chose qu'il a dit qui est très intéressante, il parle de problèmes sonores. Parce que les matériaux, c'est vrai que le béton fait des murs très très sonores. Et c'est intéressant que dans l'une des habitations à Marseille, il a fait en sorte que les boîtes en béton sont complètement isolées l'un de l'autre. Mm-hmm. Et donc cette question de privé est très forte pour lui. Il était absolument contre l'idée de la vie collective, comme ça a été pratiqué en Tchécoslovaquie et en partie en Allemagne.
C'est la vie privée au sein d'un ensemble où fonctionne la vie collective.
Et là aussi, c'est le cartouche de Emma, le Certosa di Emma, qui est le modèle. Les moines qui ont leur cloître, leur circulation, l'église, ça c'est leur vie sociale, et ils ont leur petite maison, chacun complètement indépendant. Pour lui, toute sa vie, c'était le modèle.
C'est un moine lui-même, pour vous?
Une forme de moine. Il le disait lui-même, souvent. Oui, il était quelqu'un qui n'avait pas besoin de beaucoup de compagnie, c'est-à-dire qu'il était content d'être tout seul. Quand il a construit son cabanon à Roquebrune, il disait que c'était pour sa femme, mais c'était pour lui, parce qu'il était très content de passer des heures et des heures tout seul, ou dans le cabanon, ou sous le caribier à l'extérieur, avec ses pensées, avec ses croquis, etc., à travailler tout seul.
Et puis il va construire très bien aussi le couvent de la Tourette.
Oui, et il y a une anecdote intéressante là, que ça a été enregistré quand quand il y a eu la procession dans la cour carrée au Louvre, hein, le discours extraordinaire de Malraux, etc. Il y avait un des moines qui participait, qui a été interviewé par un journaliste. Et ce moine a raconté, il a dit qu'il était présent quand Le Corbusier a participé à la première messe dans la chapelle à la Tourette. Et il voyait que Le Corbusier, il pleurait, mais il pleurait vraiment, des sanglots, il pleurait. Et alors le moine a mis le bras dessus et il a dit, mais maître, est-ce que quelque chose ne va pas, quelle terrible note. Il a dit, j'ai découvert ce que j'ai fait. C'est bien ça.
Il y avait aussi, pardon de le dire aussi brutalement, mais une forme d'autosatisfaction chez lui.
Il avait un sens très fort spirituel. Il pensait qu'il était dans un dialogue avec quelque chose. Il ne croyait pas, je pense, en Dieu, même qu'il a été formé dans le protestantisme. Mais il avait un sens très important qu'il agissait, qu'il parlait ailleurs. Et qu'à la fin, le test de tout ce qu'il faisait, c'était pas pour les hommes.
D'ailleurs, ça se retrouve peut-être dans son utilisation de la géométrie, voire du nombre d'or.
Oui, et même avant le nombre d'or, parce que le nombre d'or, c'est vraiment quelque chose qui l'a intéressé après la guerre, ou pendant la guerre et après la guerre, avec le module or. Mais même avant ça, il parlait beaucoup de la géométrie et de Pythagore. Alors, un texte qui l'a énormément influencé quand il était très jeune, c'est de Churet, les initiés. Pythagore, c'était le texte des initiés sur Pythagore, était celui que Le Corbusier a souligné, qu'il a marqué, comme il se voyait comme Pythagore. Mm-hmm. Qui mettait ensemble la mathématique et l'esprit pour passer au-delà de niveau humain, pour être un initié.
Donc la science du logis pour Le Corbusier, c'est aussi les mathématiques, et c'est pour créer de la pureté, c'est ça? Pour créer de l'harmonie?
Il avait une idée un peu obscure que j'ai vraiment jamais complètement compris, d'une espèce de onde qui reliait toutes les choses. Il parle de ça un peu dans la préparation d'une de ses conférences. Et cette onde a comme base la mathématique. Et donc c'est la mathématique qui est comme le lien, comme une chaîne, un câble qui connecte le monde physique à le monde éternel.
Donc ce qui est souterrain, les forces souterraines l'intéressent beaucoup, quelque chose de presque kabbalistique là-dedans.
Oui, kabbalistique ou alchimiste. Il frôlait l'alchimisme, il était très intéressé dans l'alchimisme.
Et dans
l'idée alchimique de la transfert de fer basique en or, cette idée-là, c'est quelque chose qui, je pense, il l'a touché beaucoup.
Et il arrivait à mettre dans ses bâtiments autre chose que la somme de tous ces murs et de tous ces toits et de toutes ces arêtes de béton. Il arrivait à y mettre du mythe. Et il considérait que lui savait mieux que d'autres architectes instaurer ce surplus d'âme, ce mythe dans ses bâtiments. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, mythe, je ne sais pas, mais symbole, oui.
Ou symbole.
Symbole. Par exemple, il écrit, je me souviens plus si c'était à Yvonne, mais quand il était à Chandigarh, il disait que tous les gens ici, c'est-à-dire Pierre Jeanneret et les Anglais, il ne connaissait pas, il comprenait pas les symboles. Mm-hmm. Et ce qui est magnifique en Inde, c'est les symboles. Une vie de symboles où tout avait un aspect symbolique.
Et en France, est-ce qu'il trouvait qu'on comprenait suffisamment les symboles?
Non. Ça l'a beaucoup déçu. Et ça l'a beaucoup déçu surtout dans la route qui prenait l'architecture moderne et surtout après la guerre. Donc il n'avait aucun intérêt de l'international style, comme on l'appelle.
Le style international. Mm. Alors, vous avez parlé du moduleur tout à l'heure. Mm. Il faut quand même expliquer exactement aux auditeurs de quoi il s'agit.
Bon, alors, c'est très intéressant le moduleur parce que la description très simple, c'est que c'est l'utilisation d'une échelle qui s'appelle le Fibonacci, qui a été découvert dans le XVIe siècle, ou une approximation à la nombre d'or. Et à cette échelle, il a trouvé des numéros qui allaient plus ou moins liés à l'auteur de l'homme avec le bras levé.
C'est-à-dire 2,26 m.
2,26 m, oui, et puis la tête de son dit, c'est le nombril, etc. Alors, c'est une chose très simple. C'est simple. Il suffit seulement de choisir un numéro et puis attacher Fibonacci scale pour avoir quelque chose. Mais en fait, il y avait énormément de travail dedans. Donc, il a passé beaucoup de temps parce que il se passionnait pas seulement des dimensions et des relations des numéros un avec l'autre, mais tout le background symbolique de ces numéros. Et en fait, là aussi, il faut dire, le modulor a une faute absolument basique à l'intérieur, c'est qu'il a deux échelles, un bleu et un rouge, un est le double de l'autre. Mm-hmm. Alors, dans chaque échelle, chaque numéro est à la relation de nombre d'or avec l'autre. Mais si on saute du bleu au rouge, il n'y a aucune relation, forcément.
Oui, bien sûr. Mais alors, à partir de ce modulor, il a voulu tout construire. C'était devenu son maître étalon. Ça veut dire que les plafonds, qu'en général on construit aujourd'hui à 2,50 m, étaient censés être plus bas, à 2,26 m précisément.
Dans ses propres constructions, il ne suivait jamais précisément le modulor.
C'était juste une idée alors, le modulor.
C'est une idée. C'est encore une idée. C'est cette contradiction centrale entre le dogme de chercher des lois fortes sur bétonné et toute l'individualité qui est l'essentiel pour l'art.
En 1933, à Athènes, à ce congrès qui dura 15 jours et où un navire de croisière s'était transformé en salle d'assemblée, de commission et de dactylographie, une série de constatations clôtura les débats. Constatation si importante, si décisive pour l'avenir des villes, vieilles ou récentes, que leur publication détaillée fut décidée. La charte touchera les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme, de l'entreprise et des communications. Elle sera mise entre les mains des sociologues, des médecins, des hygiénistes, des économistes, de tous ceux qui sont accoutumés à envisager le phénomène humain avec sang-froid et sous la pluralité de ses aspects. La charte sera sur la table des édiles. L'ayant lu, les édiles apercevront où gisent leurs responsabilités essentielles. La charte sera sur la table des hommes de gouvernement, et le politique, qui est l'art par quoi les plans sont placés dans la vie, y trouvera certaines de ses directives les plus sûres. La charte paraît en France, pays où le jeu de la construction possède les plus vivantes et les plus fortes traditions. Pays qui, depuis 1000 années, n'a jamais tourné le dos au vrai, au bien, mais a toujours créé de la grandeur et manifesté son génie propre par les œuvres du domaine bâti. Pays qui inventa, en ces 10 dernières décades, les grandes techniques modernes de l'art de construire.
Une archive qui date du 1er mai 1944. Alors Tim Benton, la charte d'Athènes dont il est question là, c'est ce qu'il est ressorti du 4e congrès international d'architecture moderne qui s'était tenu sur un bateau entre Marseille et Athènes, qui est une sorte de manifeste sur ce que devrait être un urbanisme moderne. On se réfère très souvent aujourd'hui encore à la charte d'Athènes. Pourquoi est-ce un texte si important ?
Pour toutes les mauvaises raisons que l'international style est devenu un style rétrogressif à la fin. C'est-à-dire que c'était la fin d'une conversation passionnante entre une série d'architectes hollandais, allemands, tchèques, italiens, même anglais, etc. Mais qui n'a pas abordé une solution parce qu'il y avait des divergences fondamentales entre les différentes personnes. Donc Corbusier a rédigé sa version, il y a une autre version qui a été rédigée par les Suisses mais qui n'a pas été publiée.
Mais ce qu'on appelle la charte d'Athènes, c'est celle de Le Corbusier.
C'est celle de Le Corbusier, oui. Et donc c'était une version qui, à l'origine, n'avait pas du tout l'accord de tous les architectes modernes et qui réduit en points trop précis des questions très très complexes de l'urbanisme.
Donc l'idée... pour la réduire encore, cette charte d'Athènes, c'est la séparation des fonctions,
oui.
Comme on le disait déjà un petit peu hier,
oui.
La circulation quelque part, le travail dans un autre endroit, les lieux pour le loisir dans un autre. À Paris, ça a été un petit peu fait avec la Défense, qui est un endroit où on travaille essentiellement, même s'il y a des logements. Pourquoi faudrait-il, selon Le Corbusier, séparer comme ça les différentes fonctions?
Mais là aussi, c'était pas Corbusier. Le Corbusier a dressé la version, mais c'était une idée, cette idée de zoning, c'était très, très répandu dans le monde urbanistique. Séparation de travail et habité, etc.
Dont on revient beaucoup.
On revient beaucoup sur ça. Le problème, c'est que ça, c'est devenu trop dogmatique. Le grand problème, c'est qu'il a eu le résultat, quand ça a été appliqué trop durement, de vider le centre des villes et de créer des ghettos industriels et des choses comme ça. Donc, c'est un bilan incroyablement difficile de maintenir la vie d'une ville avec une circulation, avec tout cela. Champ de gare, à la fin, c'est pas la pire des solutions où un aspect de la charte d'Athènes a été appliqué. La circulation, le zoning, c'est une ville que, dans le contexte indien, marche pas mal, et où c'est habité par 3 fois plus que le plan original, et donc il y a des problèmes comme partout, mais c'est pas le pire des solutions.
Chandigarh, finalement, c'est un peu un des seuls endroits où Le Corbusier a pu développer comme il le souhaitait toutes ses idées sur la ville.
Oui, sauf que les unités d'habitation, c'était sa solution urbanistique d'après-guerre, c'est-à-dire que c'était...
Il y avait toute une ville dans un immeuble.
Voilà, on n'a pas la force de résoudre tous les problèmes d'une ville. Ce qu'on peut faire, c'est de résoudre le problème d'un quartier et d'essayer de créer des unités d'habitation où l'essentiel d'un quartier, avec les écoles, les magasins, etc., pourrait être aménagé ensemble dans une façon... quoi.
Pour Chandigarh, il a dessiné de manière extrêmement précise tous les détails. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'il travaillait, en allant très 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 loin dans la conception?
Oui, sauf que 80% de la ville a été dessinée pas par lui, mais par Maxwell Fry et Jane Drew, mais surtout par Pierre Jeanneret, son cousin. Ouais. Le Corbusier s'intéressait surtout au Capitole, ces grands monuments de l'Assemblée, de le Secrétariat, de la Cour de justice et des autres choses symboliques.
Mais il y avait quand même un souci du détail très important chez lui, non?
Oui, oui, mais je ne choisirais pas Chandigarh comme exemple.
Choisiriez plutôt
les hôpitaux, mais même dans ces maisons, par exemple. C'est intéressant que Le Corbusier ne dessinait pas énormément dans le projet. Donc, il faisait des projets initiaux, mais si on regarde la Villa Savoie, par exemple, il y a, c'est pas 350 plans de saints qui ont été faits pour cette maison, et lui, il a fait une dizaine. Mais parmi cette dizaine, il y a des détails. Il s'intéressait beaucoup aux détails. Mm-hmm. Comment faire le fin de mur, comme ça, quel angle précis mettre, comment faire la machine pour tourner la grande vitrail, etc. Donc, oui, il s'intéressait beaucoup. Et tout grand architecte s'intéresse aux détails.
Est-ce que, puisque vous parlez de la ville de la Savoie, qui a été très peu habitée, finalement, qui a été trouvée froide, désagréable, je ne veux pas critiquer par ses commanditaires, est-ce que vous pensez que c'est d'abord une idée, une très belle idée d'architecte, jalon dans l'histoire de l'architecture, ou est-ce que c'est une maison agréable aussi à vivre?
C'est compliqué. Il y avait beaucoup de problèmes techniques, donc il y avait des fuites et des choses comme ça. Mais selon le petit-fils de Savoie, c'est une maison qui a été beaucoup aimée par les Savoie. Ils l'ont habité pleinement jusqu'à la guerre. C'est pas vrai qu'ils l'ont abandonné. C'était la guerre qui les arrivées des Allemands qui l'ont fait quitter. Oui, c'est. C'est bizarre parce que est-ce qu'on pose la question, est-ce que la Villa Rotonda de Palladio était confortable?
Probablement pas.
On ne demande pas si Versailles était confortable. On sait très bien que Versailles n'était pas confortable du tout, ni même le petit Trianon. Donc, il y a un problème avec l'ambition des architectes de faire ce qu'il appelait des palais, des œuvres d'architecture. Et presque toutes les maisons qu'il a construites. Je pense que la maison Cook est très bien. Moi, j'habiterai volontiers dans la maison Cook. J'habiterai très volontiers dans les maisons Jaoul. Et pas mal d'autres maisons de Corbusier. Mais la Villa de Savoie, c'est vraiment un certain type d'habitation qui est comme les maisons de Miss Van der Rohe, ou c'est pas fait vraiment pour être vécu.
C'est aussi des concepts. Et il y a cette idée de la séparation, peut-être déjà à l'échelle d'une maison, des circulations, parce que la voiture doit arriver sous la maison, elle est presque cachée comme ça, et elle tourne pour arriver jusque dans le garage.
Oui, mais c'est génial comme cette idée, non? Et parce que c'est symbolique, c'est au plein niveau symbolique. C'est le Zeitgeist.
L'esprit du temps.
C'est la voiture qui a créé le monde nouveau, donc la voiture doit créer la maison. Donc la famille arrive pour le week-end de Paris en voiture, et la voiture doit être accommodé. Et la rampe dans la Villa Savoie, c'est symboliquement la continuation de la voiture. Et il y a même un projet, un petit projet, un croquis, où il montre la voiture qui entrait au premier étage sur la terrasse et descendait dans la maison.
Est-ce que ça n'en fait pas une œuvre très symptomatique d'une époque qui n'est peut-être plus la nôtre?
Complètement, complètement. Et c'était aussi, il faut savoir que c'était la fin de la série des maisons modernes de Le Corbusier. Quand la Villa Savoie a été en construction, il dessinait déjà trois autres projets complètement différents qui utilisaient les matériaux naturels de bois, de pierre, etc. Donc ça, c'est... Il avait formulé les cinq points de l'architecture moderne en 1927. En 1929, il les abandonne parce qu'il s'est rendu compte qu'il a créé un style, en fait.
La réalisation de l'unité de Marseille aura apporté à l'architecture contemporaine la certitude d'une splendeur possible du béton armé mis en œuvre comme matériau brut, au même titre que la pierre, le bois ou la terre cuite. L'expérience est d'importance. Il semble vraiment possible de considérer le béton comme une pierre reconstituée, digne d'être montrée dans son état brut. Il était admis que l'aspect du ciment était triste, que sa couleur était triste. Cette opinion est aussi fausse que de dire qu'une couleur est triste en soi. Une couleur ne vaut que par son voisinage.
Et oui, pour Le Corbusier, Tim Benton, le béton est un matériau qui a sa noblesse propre. Il l'utilise aussi en tant que plasticien. Il est toujours un peu plasticien quand il est architecte.
Toujours plasticien, oui. Et cette question, la façon dont il parle est très intéressante parce que c'est cette question de la noblesse des matériaux. C'est, il faut anoblir le béton. Et on peut faire ça avec la forme. Et avec la couleur, parce qu'il utilise beaucoup la couleur.
Et avec la coulure aussi, sans jeu de mots, parce que c'est vrai que c'était du béton qui n'était pas lissé.
Absolument. Et donc, c'est le béton coulé, le béton brut, c'est aussi le bois. Comme vous dites,
Le coffrage.
Mais c'est, on voit le bois qui a laissé trace dans le coffrage.
Donc la nature imprimée dans le mur.
Absolument. Comme un fossile, comme on trouve dans la nature.
Alors la peinture, on sait qu'il peignait tous les matins. On sait aussi qu'il avait sans doute eu l'ambition d'être peintre à un moment de sa vie. On en parlera sans doute dans l'émission de jeudi. À quel point c'est très important?
Alors, là aussi, il y a plusieurs réponses à cette question. Le plus basique, c'est que c'était une thérapie nécessaire pour lui. Donc, il ne supportait pas de parler architecture tout le temps. Donc, le fait d'avoir ce temps privé où il peignait était très important. Et aussi, l'idée, l'ambition toujours d'être peintre. Parce que pour lui, toujours être peintre était très important. J'ai fait plusieurs expositions sur Le Corbusier et c'est vrai qu'il y a quelques peintures qui sont vraiment pas ce qu'on voudrait montrer au public.
Donc, c'est-à-dire?
Donc, des femmes qui c'est pas bien fait, c'est bien pas résolu. Je suis sûr que lui aussi, il accepterait ça. On ne les voit pas dans les expositions qu'il a fait lui-même. Donc, c'est pas tout un succès. Il y a des ratés, quoi. Et à certains points de sa vie, à un moment assez précis, il a fait des très grandes peintures.
Donc c'est un grand peintre pour vous, même si on ne s'en souvient pas comme tel.
Alors, Daniel Pauly dira l'opposé. Pour Daniel, c'est le dessin seulement où il se montre vraiment comme artiste. Et moi, je dis que ce n'est pas un grand peintre dans le sens que Picasso faisait des choses toute sa vie qui étaient plus ou moins irréprochables. Non, mais comme je dis, il y avait certains moments dans sa vie, entre 26 et 32, par exemple, et un moment après la guerre aussi, où il a fait des choses vraiment remarquables et qui sont absolument importantes, dignes et très importantes dans l'histoire de l'art.
Alors finalement, il a construit pas mal, mais pas non plus énormément. En France, il n'y a quasiment pas de commandes publiques. Il n'y en a même pas du tout.
Oui. Et c'était ça un grand moteur. Et c'est ça qui explique beaucoup de sa rhétorique très virulente et violente, urbanistique. C'est qu'il a été refusé une fois après l'autre pour tous les projets qu'il a proposés, pour l'habitation, pour l'urbanisme, etc. Par exemple, pour l'exposition de 1937, il a fait 4 ou même 5 propos pour faire quelque chose pour l'exposition de 1937 à Paris. Et à chaque fois, ça a été refusé. Et donc, ça, c'était pour lui une espèce de moteur qu'il a beaucoup poussé à créer des projets toujours plus ambitieux, toujours plus difficiles.
Il a construit le pavillon de l'Esprit Nouveau en 1925, au cours d'une autre exposition.
Exposition qui n'a pas duré très longtemps. Il a travaillé pour l'armée de salut, il a travaillé pour les Suisses, il a fait ses maisons. Mais il avait beaucoup de mal avec le gouvernement.
C'était un ami de Malraux. Malraux aurait pu lui commander un bâtiment, une maison de la culture au moins.
Absolument, oui. Malraux avait une relation compliquée avec Corbusier parce qu'il a beaucoup défendu. Claudius Petit, c'était le vrai patron de Le Corbusier d'après-guerre. Et c'est Claudius Petit qui a énormément aidé Le Corbusier dans sa période de ministre à continuer l'unité d'habitation et pour toutes ses connexions, pour la Tourette, etc.
Un nom d'architecte d'aujourd'hui qui est un descendant direct pour vous de Le Corbusier?
Ouf! Bon, il y a des descendants directs dans l'enseignement, comme Siriani, qui a enseigné, par exemple, à Belleville pour très longtemps, qui a poursuivi un peu la méthode de Corbusier.
Mais un architecte?
Un architecte, non. Je pense que Le Corbusier tournerait dans sa tombe si je Je donnerai un exemple.
Bon, on va pas le faire. Merci Tim Benton d'être venu aujourd'hui présenter l'œuvre de Le Corbusier. Pour aller plus loin, je recommande la monographie très richement illustrée que vous avez publiée avec Jean-Louis Cohen aux éditions Faïdon sous le titre Le Corbusier, le Grand. Tout de suite, la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Christophe Carrière du magazine L'Express. Bonjour Christophe.
Bonjour Mathieu.
Alors vous allez peut-être d'abord nous dire un mot sur Le Corbusier.
Ah bah ouais, on a toujours un mot à dire sur Le Corbusier, hein. Même si on n'est pas spécialiste en architecture. Moi, ma spécialité, c'est le cinéma. Et demain sort dans toutes les salles Les Misérables de Ladjli, prix du jury au Festival de Cannes et champion désigné pour représenter la France aux Oscars. Alors quel rapport avec Le Corbusier, me demanderez-vous ?
On ne le voit pas.
L'urbanisme évidemment, parce que Le Corbusier est au HLM, ce Haussmann est au Grand Boulevard, alors pas sûr que ces cités radieuses à Marseille et à Nantes portent bien leur nom, à mon sens, hein. Mais ces gigantesques barres d'immeubles sont devenues la norme en banlieue. Alors bien pratique il y a une soixantaine d'années, bien plombante aujourd'hui, au point d'inspirer le tube des Inconnus que vous connaissez. La banlieue, c'est pas rose, la banlieue, c'est morose, dont fait partie le décor des Misérables, situé à Montfermeil, où Le Corbusier, à ma connaissance, n'a rien construit.
Il n'a rien construit.
Mais où les cités se sont embrasées plus d'une fois. C'est d'ailleurs ce que racontent les Misérables, comment, à cause de la bête disparition d'un lionceau, il y a un cirque pas loin, la tension va monter crescendo jusqu'à la bavure policière. Alors pour autant, le film n'est pas une charge anti-flic, hein, pas plus qu'un lamento social. C'est un état des lieux objectif et une œuvre forte réalisée par un enfant du quartier, Ladjli, qui a grandi et vit encore dans une de ses tours de Seine-Saint-Denis.
Alors tout comme Le Corbusier est souvent incompris, la Seine-Saint-Denis est un département qui véhicule beaucoup de clichés.
Hélas, je suis bien d'accord. Comme cette followeuse qui, suite à l'enquête sur Les Misérables à lire cette semaine dans l'Express, un peu de pub, a répondu « Ces jeunes de banlieue qui tirent sur des policiers et des pompiers, quelle horreur !» fin de citation. Et d'ajouter « Les Misérables, c'était Victor Hugo !» Alors oui, mais justement, où se déroule une partie des Misérables de Victor Hugo? Où habitent les Thénardier? Où Jean Valjean rencontre-t-il Cosette? À Montfermeil, précisément. Alors, il n'y avait pas encore de HLM, mais la fracture sociale s'y faisait déjà bien sentir. Quant aux jeunes de banlieue qui tirent sur tout ce qui bouge, ça, c'est un cliché. Alors, il y en a, oui, on l'a vu, hein, il y a quelques jours, mais si peu. La majorité d'entre eux ont des idées plein la tête et Ladjli entend bien le prouver. Car 80% du casting des Misérables vient de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois, les deux villes sont limitrophes, et il y a eu zéro problème sur le tournage. Mais Ladjli va plus loin que mettre tout ce petit monde en lumière. Il y a un an, avec le collectif Courtrajmé, qui initie depuis une vingtaine d'années plein de courts et de longs métrages, il a créé une école de cinéma au pied d'une cité de Clichy-sous-Bois. L'école est ouverte à tous, gratuite. Elle prend 45 élèves de tout âge chaque année, et pour être sélectionné, il y a deux conditions. 1. Ne jamais avoir fait d'école de cinéma, c'est drôle quand même. 2. Proposer et défendre un synopsis. Voilà, c'est tout, c'est simple. Même vous, Mathieu, vous pouvez y participer. Sur ceux de la promotion 2018, déjà deux sont en train de développer leur film. Et Ladjli annonce d'ores et déjà ouvrir une nouvelle étoile à Angoulême en 2020, puis une autre à Marseille. Autant d'établissements qui vont voir éclore de nouveaux artistes, lesquels ont surtout retenu de la chanson des Inconnus la suite des paroles. Vous vous souvenez, la banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Alors prends-toi en main, c'est ton destin et le leur de destin devient enfin enviable.
Merci Christophe, on retrouve votre signature dans les pages du magazine L'Express. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Jean Frédérics. Dans un instant, les sciences.